vous avez compris.
I have a dream.
Vive la nation !
Vive la nation !
Rentre ici, Jean Moulin, avec vos terribles cortèges.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir ! Il faut arrêter groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ?
Groupir !
Faut alors voir.
Et toc, remonte ton slibard, Lothar.
Messire !
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Mesdames et messieurs, bonsoir, nous sommes le 4 juin 2024 et vous écoutez l'émission de La Percée de l'Histoire. Pendant une heure, nous serons dans ce magnifique studio pour parler avant tout histoire et surtout la passion qui nous anime. Et je ne serai pas tout seul, évidemment, vous le savez déjà, mais vous le sentez déjà derrière son micro, c'est le grand, le magnifique Salouane. Bonsoir Salouane.
Bonsoir Thomas, comment vas-tu ?
Ça va super mal, je suis mais super non. Fatigué.
Oui, j'imagine.
Parce que nous sommes avec la fatigue qui nous accompagnera toute cette émission.
Oui, ça va être une émission assez molle, j'utilise le terme.
Oui, je crois que c'est de bon ton. Voilà.
Le niveau vocal ne va pas dépasser ce niveau-là.
Mais alors pourquoi une telle fatigue ? Parce que vous, vous ne faites rien dans votre
mais
vie.
Mais je vous pose la question à vous, cher monsieur.
Eh ben moi, cher monsieur, je suis fatigué depuis 10 heures.
C'est une fatigue morale.
Ce n'est pas faute de ne pas avoir bien dormi. Au oui. contraire, j'ai bien dormi. Pour tout vous dire, je me suis levé à 3 heures pour boire un verre d'eau.
Très bien.
Et c'est tout.
Bien.
Mais à part ça, ça va. Mais dès que je suis arrivé au collège, c'est j'ai fou. Bu un café et ouais. rien à faire. Quoi. Mais rien c'est... à faire. Je comble le retard. Depuis ce matin, vraiment. Et c'est pour, j'ai pas fait des trucs extraordinaires, quoique.
Ouais, non, c'est mental, c'est.
Les enfants m'ont un peu, comment dire, ennuyé. Ah. Voilà, ennuyé à la fin. Mais bon, à part ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui ?
Bah, monsieur, nous sommes sur une semaine où nous avons que des scolaires.
Ah.
Donc, c'est que des collèges, écoles ou centres de loisirs. Jusqu'à samedi. Samedi, c'est calme, mais on a une conférence. Mais sinon, hier, aujourd'hui, demain, jeudi, vendredi, tous les jours.
Tous les jours.
Que des groupes scolaires. Et c'est bien les scolaires. Ah mais bah, c'est très fatigant.
On est...
C'est très, très, très fatigant.
J'imagine que pour un site, pour le manoir de la cour, par exemple, c'est toujours quelque chose d'appréciable et apprécié. C'est,
oui, oui, oui. Bah, ça fait... quand tu as un groupe lundi... Lundi, c'était j'ai beaucoup aimé la journée de lundi, mais on avait c'était des groupes de 38 élèves, 38 cinquièmes.
Mm-hmm.
C'était un collège du Mans, le collège Saint-Joseph.
Ah
si
oui.
Si je dis pas de bêtises, il est à côté de la gare.
Oui, oui, oui.
Ou juste derrière, quelque chose comme ça. J'en parlais un peu avec les élèves. Et
oui, il est sur la sur le boulevard pour aller sur la gare.
Oui.
C'est ouais. la voie de tram avec l'église, quoi.
Oui, c'est
l'église
ça.
Qui va s'effondrer.
Et du coup, y a une partie des classes qui sont parties en vacances, pas en vacances, mais en classe plage ou classe mer ou je sais pas trop quoi, oui. classe voile.
Classe
et
vert.
Du coup, il y a quelques élèves qui sont pas partis et du coup, ils ont rassemblé les élèves de toutes ces classes et fallait bien les occuper. Donc, ils ont trouvé le manoir de la cour.
C'est sympa.
Ouais, bah oui, oui, parce ça permet de faire quelque chose. Et ouais, mais du coup, c'est... Alors, il y a des ateliers, ils font des visites, c'est sympa. Mais moi, j'avoue que j'ai toujours, et ça me plaît, c'est ce qui me plaît, mais j'ai toujours ce biais-là de visite de village.
Mmh.
Du coup, je passe la journée à crapahuter dans tout le village, à faire des tours et des tours et des retours et des retours. Donc ouais, ça fatigue assez vite. Et aujourd'hui, du coup, la même chose. Plus des ateliers. Et on recommence après. Donc ouais, ça fatigue très très vite. Ça explique que... mon état et notre état ce soir.
L'état général.
C'est ouais, une petite soupe dodo et au lit, quoi.
Ah oui.
Dodo et au lit, pipi et au lit.
Ah oui, oui. Parce que pour tout vous dire, demain, en plus, j'ai une sortie scolaire. Il faut que je me lève à 5h15.
Avec courage, hein, fort.
Pour aller au collège à 6h15, du coup. Je compte une heure, histoire de bien me préparer, tout ça. Déjà, ça fait jaser à la maison.
Ouais, j'imagine.
Mais,
ouais.
Mais comment tu te lèves aussitôt, machin ? Et j'ai répondu, je fais partie de la France qui se lève tôt. Pardonnez-nous.
Nous sommes la France qui travaille, voilà. Dit Gabriel Attal.
Voilà, le damné de la Terre. Et bon, bah, ça va être sympa. Hein. Mais c'est vrai qu'on revient au collège à 19h30.
Et c'est où cette sortie ?
C'est à Chaumont, château de Chaumont.
Ok.
Alors, on prend le train, on fait un...
Ah oui, carrément ?
Ah oui, c'est relativement loin, entre guillemets. Mais ouais, ça va être une super journée. Il va faire beau.
Oui,
ça,
en plus.
C'est bien.
Ouais.
Pique-nique, tout ça, donc, machin.
Vous quel niveau ? Cinquième ?
Sixième.
Sixième.
Deux classes de sixième. Très gentil, okay. Au demeurant. Et ça va être cool.
Ça va être une bonne journée. Pardon pour le... Mais ça va être, ouais, une très très bonne journée. C'est toujours bien de faire des sorties scolaires.
Exactement. Mais en attendant ce jour, c'est presque tout à l'heure, nous allons bien évidemment assurer cette émission comme oui. Il se doit. Avec tout d'abord le journal historique, évidemment, parce qu'autrement on est perdu, on ne sait plus où on est. Ensuite, je vous ferai une petite chronique sur l'abbaye de Lépau. Tiens, j'avais envie d'en parler à haut lieu de l'histoire, Mancel. Et ensuite, nous parlerons un peu d'histoire autour de finalement presque une libre antenne, voyez-vous, un podcast.
Ouais, pourquoi pas.
Et on verra ça, bien évidemment, après. Mais pour l'instant, sans transition, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et nous allons passer au journal historique. Et si tu le veux bien, je vais faire les événements. Les événements du jour, nous sommes le 4 juin. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 juin ? Eh bien, tout d'abord, nous avons la première montgolfière ever, jamais réalisée.
Ballon.
Voilà. Le 4 juin 1783, s'envole la première montgolfière sans passagers à bord à Annonay. Près de leur papeterie, les fers montgolfiers réussissent pour la première fois à faire voler un objet fabriqué de la main d'homme. Les heures des vols habités et proches, j'ai envie de vous dire. Le 4 juin 1898, nous avons la fondation de la Ligue des droits de l'homme, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, plus communément appelée Ligue des droits de l'homme ou LDH, a été fondée le 4 juin 1898 en vue de la défense du capitaine Dreyfus par le sénateur de la Gironde, Ludovic Trarieux, et l'avocat Joseph Reynac. Nous avons le 4 juin 1900, sont exposées les œuvres d'Auguste Rodin, vilipendé quelques années plus tôt, à propos de la statue de Balzac qui figure aujourd'hui sur le boulevard Raspail à Paris. Le sculpteur est enfin honoré comme il le mérite. Mais son réalisme continue à faire peur. La preuve, la polémique sur la statue de Victor Hugo, que certains le soupçonnent d'avoir moulé sur nature, donc, c'est-à-dire carrément sur le pauvre corps de ce cher monsieur Hugo. Le 4 juin 1858, nous avons une célèbre phrase qui a été prononcée.
C'est le début de notre générique.
Voilà, tout à fait d'ailleurs. Oui, bravo. Oui. Non, mais moi, je viens d'arriver dans cette émission. C'est De Gaulle qui nous dit, au balcon du gouvernement général d'Alger, « Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière, des Français à part entière, il leur dit deux fois, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. » Bon, évidemment, ce cri, je vous ai compris, finalement, a été un peu trompeur. Puisque, vous en savez, ensuite, cela n'empêchera pas la guerre d'Algérie de se produire et qui finit quand ?
62.
Bravo.
1962.
Avec l'indépendance du pays.
Les
et donc, les, ce qu'on appelle les pieds noirs, hein, c'est-à-dire les habitants d'origine européenne, essentiellement française, mais européenne en général, sont contraints de partir. Et enfin, pour terminer ces événements du jour, le 4 juin 1989, nous avons le massacre des étudiants sur la place Tiananmen. L'armée chinoise massacre à l'arme lourde, c'est le cas de le dire, hein, c'est carrément détente,
oui, bah.
Les étudiants qui s'étaient réunis sur la place Tiananmen à Pékin, pardon, en hommage à Yu Yaobang, ancien secrétaire général du Parti communiste chinois et réformiste convaincu, mort le 15 avril précédent. Le massacre dit du 4-6, orchestré par Deng Xiaoping, met un terme brutal au printemps de Pékin. Le gouvernement est repris en main par Jiang Zemin. Et d'ailleurs, j'ai su ça récemment, que Johnny Hallyday, notre Johnny National, avait fait une musique en hommage de cet événement sur Tiananmen.
C'est une image qui a fait le tour et le tour et qui est même allé jusqu'à l'espace avant de revenir.
Souvenons-nous.
L'étudiant face au tank.
À la colonne de chars qui ne plie pas. Voilà. C'était tout pour les événements du jour. Salouane, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur les naissances et les décès ?
Oui. Alors, pour les naissances, on a trois personnes. On a... commençons par Théodore de Bèze. Théodore de Bèze, c'est un réformateur, si vous voulez, un théologien, qui a fait beaucoup de choses pour la réforme, donc les protestantismes. Il va rejoindre à Genève un certain Calvin et va le remplacer après sa mort à la tête de la cité. Et il va même convertir au protestantisme Antoine de Bourbon, père du futur Henri IV. Ensuite, nous avons François Quesnay, qui est médecin de formation, un curieux touche-à-tout, représentatif du siècle des Lumières. Il anime par son bagout et son audace conceptuelle un cercle d'érudits qui s'intéresse à une nouvelle science, l'économie politique. Et troisième naissance, Jean-Antoine Chaptal est l'une des grandes figures de la Révolution et de l'Empire. C'était un chimiste inventif, un homme de progrès, devenu ministre du Premier Consul, et il va préparer la société française à la Révolution industrielle. Il se forme à la médecine à Montpellier, abandonne la médecine pour se tourner vers la chimie, et il va rester célèbre pour un nouveau procédé de fermentation du vin inventé en 1792 qui va porter son nom, la chaptalisation. Pour les décès, nous en avons trois aussi. Le premier, un certain Giacomo Casanova. Oh. L'aventurier Giacomo Casanova a été emprisonné au plomb de Venise, pour raison d'État. Il s'en est évadé le 31 octobre 1755 et a parcouru le monde en quête d'aventures amoureuses. Auteur de licencieux Mémoires, c'est le nom de son ouvrage, il a inspiré le Don Juan de Mozart. Nous avons ensuite Guillaume II. Dernier empereur d'Allemagne, Guillaume II de Hohenzollern, règne de 1888 à 1918. Succédant à son père, le libéral Frédéric III, il ambitionne de faire de l'Allemagne la première puissance mondiale et abandonne la Realpolitik de Bismarck au profit de la Weltpolitik expansionniste et colonialiste. Il développe une marine de guerre, et mène une politique autoritaire et militariste. Son abdication le 9 novembre 1918 précède de deux jours la fin de la Première Guerre mondiale. Et le dernier, Reinhard Heydrich, le fils du directeur du conservatoire de musique. Heydrich est bouleversé comme la plupart des jeunes Allemands par la défaite de 1918, et entre dans la marine comme officier. Il est chassé pour mauvaise conduite et il rejoint alors la Schutzstaffel, le corps d'élite du parti nazi. Le chef des SS, le Reichsführer Himmler, lui confie l'organisation d'un service interne de sécurité. Il deviendra le fer de lance de la conquête du pouvoir.
Merci beaucoup.
Pour les naissances et les décès.
Merci beaucoup pour tout cela. Et enfin, un dernier mot sur la fête du jour. Nous fêtons les Clotildes. Bonne fête à tous les Clotildes. Tu connais une Clotilde ?
C'est un prénom pas vivante. C'est, les trucs mérovingiens, non ? C'est pas ça, Clotilde ?
Oui, je crois qu'il y en a une, oui.
Mais non, mais je voulais Charlemagne dire... ou Childéric ou quelque chose comme ça.
Je voulais dire de ton vivant.
Non, mais pas de Clotilde, non.
Eh bien, Clotilde était la fille de Chilpéric, roi des Burgondes. Bien que catholique, elle fut donnée en mariage au roi des Francs, un païen nommé Clovis. Elle pesa beaucoup sur sa conversion. Une décision habile qui lui valut le soutien des sujets gallo-romains. D'autres peuples, comme les Visigoths de Toulouse par exemple, étaient chrétiens de confession qu'on disait arienne. Les gallo-romains se tenaient à distance. Bonne fête à tous les Clotildes, donc. Et pour cette première pause musicale. Un peu d'électro. Ça va être cette fois-ci M83, Midnight City. Un titre mondialement connu, j'ai envie de dire. Et on ne s'en lasse jamais. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur la percée de l'histoire jusqu'à 21h, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et nous venons d'entendre Midnight City de M83. Une musique que j'affectionne particulièrement et qui est très connue, entre autres.
Classique.
Classico-classique. Sur ce, rien à voir avec l'électro, l'abbaye de l'Épau.
Ça rime.
En plus, ça rime. Et c'est pas fait exprès.
Quel poète.
Ben oui. Alors, l'abbaye de l'Épau, bien évidemment, tous les manceaux et les mancelles connaissent parfaitement l'abbaye de l'Épau. qui est située non pas au Mans, mais à Ivry-l'Évêque.
Oui.
Attention, parce que là, il va y avoir des morts si jamais on, on fait...
Si on a l'audace.
De faire la confusion. Et donc, notre histoire commence, parce qu'il y a bien eu un commencement. Comment en est-elle arrivée là ? Pourquoi un si grand bâtiment, etc. Parce que, en vérité, l'abbaye est pas mal du tout. Eh bien, d'abord, notre histoire commence avec l'abbaye de Persaigne, figurez-vous. Eh oui, l'abbaye de Persaigne, qui est située au nord du département de la Sarthe, à l'orée de l'Orne et de la Sarthe.
De Persaigne.
Elle est considérée comme la plus ancienne abbaye cistercienne du Maine. Notre personnage principal entre alors en scène. C'est Bérengère de Navarre.
Eh oui.
Mais qui est-elle ?
Une grande dame.
Une grande dame. Eh bien d'abord, c'est la femme du roi Richard Cœur de Lion. Donc, elle est reine d'Angleterre. Et elle entretient de bonnes relations avec l'abbaye de Persaigne. Parce que, au moment des faits, souvenons-nous, les rois d'Angleterre, donc les rois plantagenets, avaient énormément de terrain. Surtout oui. Depuis le mariage de Aliénor d'Aquitaine, donc la mère de Richard Cœur de Lion, et du roi d'Angleterre Henri II, Aliénor d'Aquitaine apporte, comme son nom l'indique, l'Aquitaine, qui n'est à peu près... Bah, finalement, c'était un peu plus grand que la région actuelle.
Voilà. C'est toute la façade ouest de la France.
C'est un peu ça. L'Aquitaine médiévale comprenait la région Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, et un peu de l'Occitanie. Ensuite, s'est ajouté à cela la Bretagne qui est tombée dans le giron des Plantagenets, les ducs d'Anjou qui, eux aussi, ont dû céder du terrain.
Les Plantagenets, c'est leur berceau.
Tout à fait. Et donc, les comtes du Maine, fatalement, Anjou aussi. Et Maine ne vont pas, enfin, font la paire, finalement.
Oui, ouais.
Et évidemment, je ne parle pas de la Normandie qui est au roi d'Angleterre depuis...
Oui. Bon, c'est pas compliqué, il faut couper la France 1066. En deux. Tout ce qui est à l'ouest, c'est aux Anglais.
Voilà, c'est un peu ça. Et à l'est, c'est pour les autres. Donc, un beau morceau. Eh bien, Bérengère de Navarre entretient d'excellentes relations avec l'abbaye de Persaigne. Et malheureusement, la patatras, la reine se retrouve veuve, car son mari trouve la mort subitement. En 1199, oui. Pendant le siège de Chalut, je crois qu'on dit comme ça, parce qu'il y a un S à la fin, dans le Limousin. Voilà, un carreau d'arbalète. Je pense que... Je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote à l'antenne, mais... donc, il était au siège, et puis là, on dit que Richard se serait approché un peu trop près des murailles pour féliciter un type... qui se défendait avec une poêle à frire. Bon, c'est la légende, c'est marrant. Et là, bon, bah, il y en a un qui a pris l'occasion de lui en foutre une...
Et paf !
Voilà, un petit carreau d'arbalète. Et il dit, non, mais c'est bon, ça va. Et il est mort de la gangrène quand même. Et sa mère, qui était encore vivante, figurez-vous, a pu assister à son décès, malheureusement. Donc, après 8 ans de mariage, eh bien, le couple n'a pas eu d'enfant. Alors, vous le savez, hein, depuis le temps, si vous êtes un roi et une reine, et que vous n'avez pas d'enfant,
problème.
Eh bien, ça va commencer, pardonnez-moi l'expression, mais à chier des bulles carrées, et très vite fait. Eh bien, ça n'a pas loupé, encore une fois. Une guerre de succession s'engage entre Jean sans Terre et Arthur de Bretagne, qui sont tous deux les frères de Richard. Jean sans Terre étant le dernier de ses frères, et Arthur de Bretagne étant... le puiné, c'est-à-dire le cadet de la fratrie. Bérengère, bah, elle ne veut pas participer à la fête et se réfugie, chez sa sœur, la comtesse de Champagne. Petit à petit, elle se rapproche de plus en plus de la cour de France, jusqu'à obtenir de Philippe Auguste, une fois qu'il a repris main basse sur l'Anjou et le Maine, eh bien, Philippe Auguste va lui concéder des territoires, et notamment, il va lui concéder la ville du Mans et ce qu'on appelle sa quinte, c'est-à-dire toutes les terres à 5 lieues autour du Mans. Donc, ça fait à peu près un rayon de 20 km autour de la cité mancelle. Et alors, elle acquiert d'autres terrains, comme par exemple le fief des chanoines de Saint-Pierre-de-la-Cour avec ses moulins. Elle est confiée ensuite à l'ordre cistercien pour y fonder une abbaye. En mai 1230, Louis IX confirme la donation, je cite, d'un lieu appelé l'Espal, près de la ville du Mans, pour la fondation d'une abbaye cistercienne au nom de Piété Dieu. Enfin, je voulais rajouter trois syllabes, mais ça servait à rien.
Des mots, simplement.
La piété, c'est bien. Et donc, la reine Barengère va être la bienfaitrice de l'ordre cistercien. Et pour preuve, dès 1223, le chapitre général décide que tous les ans, après sa mort, un service anniversaire serait célébré dans tous les monastères de l'ordre en son honneur. Rien que ça. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la reine est une grande amie d'Adam de Persègne, l'abbé du monastère du même nom. Donc. Alors, le lieu est d'abord choisi pour la construction de l'abbaye. Là, dans le lieu où nous connaissons actuellement. Parce que finalement, il est assez éloigné de la ville.
Oui.
Et il se situe au bord de l'Huisne, entre un marécage et une voie de communication. Les moines procèdent à des travaux de drainage d'abord et d'assainissement de la terre. Ils dévient également un bras de l'Huisne pour avoir de l'eau nécessaire à leur vie en communauté. Le plan de l'abbaye reprend celui des abbayes cisterciennes classiques. Les étapes de construction sont assez mal connues, malheureusement. La forme des chapiteaux permet néanmoins de donner une idée des étapes de construction. De la chapelle du transept, de l'église, la sacristie, la salle capitulaire, la salle des moines et le réfectoire. Ce serait fait dans cet ordre-là. Le chantier évolue du nord au sud, de l'église vers le réfectoire. Les traces archéologiques laissent à penser à un chantier progressif. Parce qu'évidemment, pour construire une telle structure, eh bien, il faut du temps. Une campagne d'embellissement de style gothique à l'église a lieu entre les années 1260 et 1320. Les derniers grands travaux se situant dans le dernier quart du XIVe siècle pour rénover certains bâtiments. Les moines et des ouvriers ont probablement commencé la construction de l'édifice par l'église. Donc. Les matériaux utilisés sont tous issus de la région. Grès roussard, tuffeau, pierre de Bernay, on a eu l'occasion de déjà citer ces quelques mots-là au gré de nos chroniques. En 1234, l'évêque du Mans, Godefroy de Laval, c'est assez antinomique, mais bon, bref,
oui,
effectue la dédicace du bâtiment monastique en le mettant sous le patronage à la fois de Notre-Dame et de Saint-Jean-Baptiste. Alors, pendant longtemps, l'hypothèse selon laquelle un incendie a été survenu en 1365, en pleine guerre de Cent Ans donc, a été tenace. Et selon la tradition, déclenchée par les manceaux eux-mêmes. Et donc, cet incendie aurait détruit une partie de l'édifice. Eh bien, suite à l'accueil d'un colloque international à l'abbaye en mars 2018 sur le thème « Les Plantagenets et le Maine », Madame Claude Andros-Schmidt, historienne de l'art de l'Université de Poitiers, spécialisée dans l'art gothique, remet en cause l'existence de cet incendie, car il ne subsiste aucune trace sur les bâtiments. Les bâtiments ou l'enceinte de l'abbaye ont pu néanmoins être endommagés durant la guerre de Cent Ans, afin d'éviter que les Anglais s'y installent et l'utilisent comme point d'appui pour attaquer la ville du Mans toute proche. Mais ça, ce ne sont que des suppositions, bien évidemment. On n'en sait rien. Finalement, notre histoire nous emmène jusqu'à la Révolution. Et oui, la Révolution qui va mettre un coup de grâce à l'abbaye de l'Épau.
Il y a pas mal de choses qui bougent à la Révolution.
C'est vrai que généralement, quand on parle d'église ou d'abbaye, surtout les abbayes, la rupture, c'est la Révolution. Un inventaire des biens fonciers de l'abbaye, qui est d'ailleurs conservé aux archives départementales actuellement, est dressé le 28 août 1790. Les derniers moines quittent l'abbaye en octobre de la même année. Ils ne sont alors que 6. Donc rendez-vous compte, c'était déjà... Il n'y avait plus grand monde déjà à cette période-là. Et en plus, la Révolution, c'est le coup près. L'abbaye est saisie comme bien national et vendue aux enchères, ainsi que le mobilier. Elle est rachetée par un propriétaire privé, un certain Pierre Thoré, et devient une blanchisserie, puis une ferme, carrément. Sacrés espaces pour les animaux. Les stalles de l'église abbatiale se trouvent aujourd'hui dans l'église paroissiale de Savigny-l'Évêque. Si jamais vous voulez aller le voir, vous avez toutes les stalles. Alors, il n'y a plus de statues sur les stalles, parce que je pense qu'ils ont été vendus aux enchères. En 1816, le gisant de la reine Bérengère de Navarre est redécouvert dans l'église abbatiale par un aventurier anglais qui s'appelle Charles Alfred Stockhold, qui en a fait le dessin. Et en 1821, le gisant est transféré dans la cathédrale du Mans. Parce que il me semble que Bérengère s'est fait enterrer dans l'abbaye.
Oui, elle voulait.
Elle voulait. Puisque, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais
le
pas.
Le chantier de l'église, je crois, ne sait pas. Elle est morte avant la fin du chantier de l'église.
Oui.
Les moines lui ont donné l'autorisation pour qu'elle soit enterrée dans la nef, si oui. Je ne dis pas de bêtises.
Peut-être, oui. Elle est morte en 1230. Donc oui, bien avant la fin des travaux, parce que l'abbaye, la dédicace se fait en 1234, vous voyez. Donc oui. Elle a pas vu le projet achevé, j'ai envie de dire. Voilà, c'était tout pour cette abbaye de l'Épau. Est-ce que tu aimes bien ce bâtiment, Salouane?
Oui, je n'ai pas l'occasion d'y aller souvent, mais... comme j'ai eu la chance de le répéter à de nombreuses fois, le XIIIe siècle, c'est l'âge d'or médiéval.
Ah oui, l'âge
d'or. Pour moi, c'est un des meilleurs moments des 1000 ans qui composent le Moyen-Âge. Et forcément, quand on a la chance d'avoir des bâtiments et des traces et des histoires de cette époque-là, ce serait un peu bête et dommage de ne pas en profiter.
De passer à côté.
De se renseigner, ouais.
Est-ce que tu te souviens... Là, c'est presque une question small talk pour ceux qui connaissent. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu allais à l'abbaye de l'Épau?
C'est une bonne question, ça.
C'était en 1230.
C'est ça, je revenais de croisade. Alors, j'ai été plusieurs fois à l'Arche de la Nature, donc tu es obligé de te garer devant l'abbaye de l'Épau. Mais je crois que je suis rentré la première fois à l'abbaye de l'Épau en 2000. C'est pendant le Covid, donc je me demande si c'est pas 2020 ou 2021, pendant l'hiver 2021.
D'accord.
Ou 2020, puisqu'il y avait les illuminations de Noël.
Ouh.
Et j'y avais été avec Simon, justement.
Oui, oui, c'est vrai.
C'est la première fois que j'en rentrais dans l'enceinte de l'abbaye. Et je découvrais du coup l'abbaye, mais que de l'extérieur. Et la première fois où je suis rentré à l'intérieur des bâtiments, c'était pour l'exposition et la conférence justement sur Bérengère.
On s'en souvient.
Avec la BD, la sortie de la BD. C'est là la première fois où je rentrais dans ce bâtiment. Mais ça doit être ça. J'ai pas de souvenirs avant.
Ouais, donc assez tardif.
Assez tardif, ouais.
Enfin, tardif, façon de parler. Par rapport à
ma chronologie de vie sur la cité Mancelle.
Bien sûr.
Et vous?
Eh bien, moi, ça a été... la première fois, c'était pendant. C'était en cinquième. Parce que j'avais fait les corallèges.
Ok.
Et en fait, si tu veux, donc les corallèges, c'est la réunion de quasiment, enfin non, peut-être pas, mais plusieurs collèges du Mans et de la métropole en général. Et tout le monde se retrouve tous les deux ans pour faire donc une grande chorale. Et on avait fait deux dates à l'époque. La première à l'abbaye de l'Épau et la deuxième à la Maison pour tous à Jean Moulin, à côté du Grand Carrefour. Et c'était super sympa. Et c'était la première fois que je rentrais là-dedans. Donc, le concert se passait dans l'église. Oui. Et nous, on était... la chorale était dans le chœur. Et puis le public, dans le reste. Hein, dans le reste de l'église.
Il y avait de la place.
Et on accédait, finalement, comme les moines, on accédait à l'église via le dortoir. Ou là où on avait pu mettre nos affaires pour la journée. Parce que c'était là où... où on avait posé toutes nos affaires. Parce qu'on avait répété toute la journée. On était venu le matin et on avait répété. Et le soir venu, on a fait le show, quoi.
Oh là là,
finalement.
Du showbiz.
Ouais, c'est un peu ça. Et je me souviens avoir chanté Over the Rainbow. Donc, c'est pour te dire.
Sacrée musique.
Sacrée musique. Ça, et puis aussi, comment ça s'appelle? Y aura-t-il de l'eau cet été? Je sais plus.
Il l'a toujours en tête.
Head Myself.
Ok.
Voilà. Je vous la ferai écouter un jour. Bref, voilà pour l'histoire de l'abbaye de l'Épau. On se fait immédiatement une petite pause musicale, Celebration, du groupe Cool Hands Gang. Un peu de funk, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait du bien, et c'est tout de suite immédiatement sur Radio Alpa.
We've been celebrating. a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Vous êtes toujours sur la percée de l'histoire et surtout sur Radio Alpa, jusqu'à 20h. Eh bien, nous nous sommes écoutés Cool as a Gang, Celebration, évidemment, un titre fameux. Et j'ai appris quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Vous savez qu'il pleut beaucoup en ce moment.
Sauf aujourd'hui.
Sauf aujourd'hui. Amis jardiniers, si vous avez des limaces dans votre potager, le meilleur moyen hors pesticides...
La bière.
La bière, tout à fait. J'ai appris ça, j'étais stupéfait du résultat. Oui. C'est ce que ça
et
marche,
ça marche
très bien.
Très très bien, ouais.
Vous mettez un pot avec de la bière dedans et ça va les attirer comme des mouches. Et elles vont se baigner, se noyer là-dedans.
C'est ça, et du coup, c'est elles seront tranquilles, vos salades.
Voilà, les salades seront apaisées et tranquilles. Nous parlions de références cinématographiques et culturelles, finalement.
Oui.
Et nous parlions de la série Shogun, sur Netflix, il me semble.
Disney+. C'est ça.
Disney+. Et Salouane, tu voulais en dire deux mots. Et d'ailleurs, première question, est-ce que cette série t'a plu ?
Alors, oui, j'ai vu cette série, elle m'a plu. C'est une bonne série. Les acteurs, dont l'acteur principal, alors pas l'anglais, je ne dis aucun mot, aucun nom, je ne veux pas spoil, donc je vais les appeler l'anglais ou le samouraï.
Ouais, c'est clair.
Mais pas l'anglais, le samouraï, donc, qui est joué par Hiroyuki Sanada, est un très très bon personnage. C'est une très belle série, les décors sont magnifiques, les costumes sont magnifiques. Quoique, je trouve que ça manque un peu de bagarre, puisque En fait, on nous annonce la guerre, la guerre, la bagarre, la bagarre. On veut voir des samouraïs se battre. Et le dernier épisode s'arrête là-dessus. En mode, je ne spoil pas, puisque c'est censé être tiré d'événements qui se sont passés en 1600. Donc ça s'arrête sur, dans quelques mois, il y aura la bataille de Sekigahara. Ok. Enfin.
Ah, super.
Mais montrez-la nous. Faites-nous comme le dernier samouraï avec Tom Cruise. On veut voir de la bagarre.
Ben oui, parce que tout l'intérêt de cette période, du coup, Shogun, ouais. Cette période se passe au XVIe siècle.
Oui, la fin du XVIe siècle, et vraiment, c'est... alors pour le coup, là-dessus, ils ont bien fait. C'est 1600. Fin d'une ère, début d'une autre.
Très bien.
Donc, évidemment, ça met du temps à s'installer, ça met du temps à se terminer. Mais 1600, bataille de Sekigahara, c'est vraiment l'événement majeur qui change l'histoire du Japon à tout jamais.
Bah oui, parce que voilà, ce que je voulais dire, c'est que là, dans la période où se passent les événements, c'est la guerre tout le temps, quoi. C'est guerre qui rythme le quotidien des gens.
C'est ça, c'est la période... alors, c'est pas des guerres civiles, mais c'est des guerres de clans, si on peut appeler ça comme ça.
Oui.
C'est la période qu'on appelle la période de l'ère Sengoku, S-E-N-G-O-K-U. Et en fait, c'est un peu le... Pour vraiment schématiser la chose, c'est le Japon découpé en seigneuries, contrôlé par des daimyo, et chaque daimyo essaye d'agrandir un peu son territoire. Et donc, ils passent leur temps à se faire la guerre les uns les autres, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit un peu plus fort que les autres, et qui arrive à avoir un territoire assez grand, qui puisse aller jusqu'à la capitale, Kyoto, pour revendiquer le titre de shogun. Et donc après, il est tranquille un moment, et rebelote. Encore un nouveau qui vient, qui commence à faire la guerre à ses voisins, qui reprend son territoire, qui l'agrandit, qui va jusqu'à Kyoto, qui devient shogun, et on recommence, et on recommence, voilà. L'ère Sengoku, elle commence...
Oh, bonne question.
Ça, c'est une bonne question.
Alors là, je vais
les airs du Japon,
immédiatement...
je ne les connais pas tous. Je sais qu'il y a Muromachi, Jomon d'abord, Muromachi, Sengoku. Mais il y a quelque chose avant l'ère Sengoku, entre Muromachi et Sengoku.
On nous dit... que ça commence en 1467.
Ouais, ça doit être ça.
Voilà.
Fin du 15e jusqu'à, du coup, 1600. Ça dure 200, 250 ans, 300 ans à peu près. Et après, du coup, on passe à une nouvelle ère. Là où on est plutôt une ère de paix, puisqu'on a l'unification du Japon. Donc on est sur une ère de paix. Et on va appeler ça la période Edo, l'époque Edo, puisque la capitale... Le pouvoir change, on passe de la ville, la capitale de l'Est, Kyoto, à la capitale de l'Ouest, Tokyo, et dont l'ancien nom était Edo.
Truc de dingue.
Et donc on appelle ça la période Edo, où là tous les samouraïs vont en fait lâcher les armes, entre guillemets, et vont commencer à devenir des fonctionnaires au service du pouvoir, et donc ne sont plus la caste des combattants.
Oui.
Et du coup, ouais, pour revenir à la série, très très bonne série, le côté historique est... Ils ont fait en fait pas mal de raccourcis. Dans l'histoire du Japon, il y a trois unificateurs, si on veut, du Japon. Le premier étant Oda Nobunaga, je pense que c'est l'un des plus connus. Il est repris énormément dans la pop culture, dans les jeux vidéo, dans les animés, dans les séries, entre dans autres. Les mangas. Et ensuite, on a Toyotomi Hideyoshi et le dernier, Tokugawa Ieyasu. Et c'est lui qui va instaurer le dernier shogunat, le shogunat Tokugawa, qui va rester jusqu'à la révolution, si on veut, Meiji, donc à la fin du 19e siècle, 1868-70, dans ces eaux-là.
Oui.
Donc en 2600, un peu plus tard, évidemment, donc début du 17e jusqu'à fin 19e, si vous voulez, toute cette période, la période Edo. Et du coup, on est à ce début, et donc le personnage principal, le samouraï, du coup, en fait, c'est un personnage, mais qui joue ses trois rôles.
D'accord.
De ces trois unificateurs, en fait, il veut pas devenir shogun, mais il a un passé qui fait que son clan a déjà été shogun, donc il a un peu la pression sur les épaules. Et puis shogun, du coup, ça permettrait d'avoir la paix. C'est un personnage qui est plutôt pour la paix et évite trop de se battre, mais il fait quand même pas mal de choses pour, puisque ça reste un samouraï, donc il est obligé entre guillemets de passer par les armes. Et puis l'acteur le joue tellement bien, Hiroyuki Sanada, il est tellement fort. D'ailleurs, il a été casté pour faire le jeu Ghost of Tsushima, qui va être adapté en série. Et donc, Hiroyuki Sanada serait peut-être le Jin Sakai de la série. Bon, mais si ça se fait, ça va être incroyable. Déjà, le jeu est légendaire, alors la série promet d'être incroyable.
Mais oui.
Mais du coup, Shogun, donc on a ce personnage principal-là qui est représentant de ces trois personnages historiques. Et ça, en fait, on le voit à travers déjà les noms. Il n'a aucun nom, entre guillemets, historique. Les symboles des clans, ils sont repris, mélangés. Il y a un épisode où, bon, c'est pas un énorme spoil, où il y a une affaire, quelques petites bisbilles avec son frère. Et ça, c'est l'histoire de Oda Nobunaga. C'est comme ça qu'il va devenir daimyo de son clan, du clan Oda. Il a beaucoup de querelles avec son frère, querelles de succession. Et puis, il y a le côté aussi européen qui débarque dans ce Japon, dans ce Hinomoto, comme on l'appelait à l'époque. Et là, pour le coup, c'est historique, si on veut. On a vraiment, c'est sourcé. On a bien la trace d'un Anglais qui débarque à cette période et qui va devenir, si vous voulez, le premier résident étranger au Japon.
Waouh, ever.
En fait, alors le mot est pas beau, mais il va se japonifier. Il va adopter les vêtements japonais, il va parler japonais, il va adopter la culture japonaise, oui. Un peu trop même.
Ah oui, carrément.
Il va devenir plus japonais que les japonais.
Ah oui, oui.
Donc, mais pour le coup, et du coup, ça devient vraiment le premier étranger européen qui vit au Japon, qui devient japonais, puisque les Portugais avaient leur comptoir commercial, mais ils étaient là uniquement pour le business.
Oui.
Et puis les Portugais ne devenaient pas japonais, ils apprenaient 2-3 mots histoire d'échanger des boutiques. Des bibelots, ce genre de choses, mais ça s'arrêtait là. Il restait catholique, il restait portugais, il restait mangeur de pastel, de pastéis même, et il ne mangeait pas de soba ou de ramen.
Bien sûr.
Donc lui, l'anglais, c'est vraiment le premier, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la série. C'est justement qu'il arrive avec ses idées de je suis l'homme blanc européen, la terre m'appartient.
Moi, je connais un peu tout.
Hein, le roi d'Espagne et le roi du Portugal ont coupé la terre en deux, mais moi, je veux une partie. Bon, je suis anglais, je prends, je suis l'homme blanc, j'ai le savoir, je sais naviguer, je connais mieux que vous. Et à la fin, il va se remettre en question. Et d'accord, ok. En fait, ici, c'est le Japon. C'est pas mon pays, c'est pas chez moi, c'est différent, donc je dois m'adapter de telle et telle manière. Mais ouais, non, c'est une bonne porte d'entrée sur l'histoire du Japon, sur cette période-là de l'histoire du Japon. C'est parce que Sekigahara, c'est vraiment la bataille des samouraïs. C'est là où c'est la plus grande bataille de samouraïs de l'histoire du Japon. C'est là où tout commence et c'est là où tout s'arrête, en fait. C'est vraiment le cœur du... Si vous vous intéressez aux samouraïs ou... combat entre
vous avez envie de découvrir
de katana, les armes utilisées par les samouraïs, leurs armures, etc. Bon, vous avez la fin avec le dernier samouraï de Tom Cruise et Ken Watanabe, même si là l'histoire est un peu édulcorée.
Oui, oui.
Mais du coup, là, avec Shogun, vous avez entre guillemets ce qui amène à Sekigahara. Alors, vous pouvez regarder la série, et après, il y a pléthore de documentaires, de livres à lire sur
évidemment
sur cette bataille. D'ailleurs, une saison 2 a été annoncée. Normalement, le livre s'arrête. C'est tiré d'un livre. C'est pour ça aussi que les noms et les personnages sont un peu transformés par rapport à la réalité historique. C'est tiré d'un livre et normalement, le livre s'arrête. Mais comme la série a bien marché, les producteurs ont dit saison 2.
J'espère.
Donc, on verra bien ce qu'ils vont faire pour cette saison 2.
Ouais, que ça fasse pas... comme Viking, par exemple, ouais. Qui a été essoré jusqu'à la moelle. D'ailleurs, j'ai jamais regardé cette série. J'ai pas regardé un épisode, mais j'avais des échos de Salouane Simon et Laure même qui regardaient ça.
Oui, c'est vrai.
Et c'était pas reluisant à la fin.
Ah, ils ont tiré ils ont étalé un peu trop
la
confiture sur la tartine. La tartine est beaucoup trop grande et ça continue d'ailleurs. Maintenant, on est passé sur du Viking Valhalla.
Wow.
C'est censé être, je sais plus, je crois, 100 ans après la fin de Vikings.
Bien sûr.
Et c'est un bordel sans nom. Typiquement, c'est l'exemple qui revient le plus souvent, mais c'est aussi le plus marquant. Bon, ils font un passage par Constantinople. Sauf que les Romains, les Byzantins de Constantinople sont habillés comme les Romains sous César. Tu vois les soldats de Astérix qui se baladent au 5e siècle, au 4e siècle. T'es en mode, désolé les gars, ça passe pas quoi. Au 8e siècle même, je parle de Vikings. Donc, c'est. Non, ça va pas.
Là, il y a des problèmes.
Même si on fait, on s'attache pas au costume, il y a quand même un petit souci du détail qui casse le truc. Et puis, bah, les histoires, il y a rien qui va. Des catholiques, alors pas des chrétiens, puisque à l'époque, il n'y avait pas de distinction.
Donc oui, bah, tout le monde est uni, bien
des
sûr.
Des chrétiens, des hommes du Nord chrétiens qui se battent contre des chrétiens, mais avec des païens. Et il y a une histoire de... un des deux, en fait, il y a une fratrie qui débarque d'Islande. Et dans la fratrie, il y a la sœur, et la sœur, elle a des pouvoirs mystico-mystiques, des dieux païens qui vont l'obliger à se battre contre les nouveaux vikings chrétiens. Ils sont partis dans des
Mon
trucs.
Dieu.
Du coup, ouais, non, c'est pas la peine.
Bah, prochaine saison, la découverte de l'Amérique.
Ouais. On arrive. On n'est pas loin. Ouais. Mais la découverte de l'Amérique en volant.
Ah oui, oui. Et puis là, il y a un samouraï. Incarné par Tom Cruise.
Donc ouais, non, Vikings...
Ouais.
Bah,
c'est dommage.
Une très bonne série, mais du coup, enlever le côté historique. Quoi.
Oui, ben voilà. Il faut poser son cerveau à l'entrée.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Salouane, pour nous avoir conseillé cette série, finalement.
Shogun, ouais.
Shogun, disponible sur Disney+, il me semble. Et pour terminer cette petite émission, hein, il est déjà 53, une dernière pause musicale pas trop longue. Proposé par Salouane d'ailleurs, Nobody de One Republic. C'est tout de suite, c'est maintenant.
I take the fall. I got you covered when there's no one at all. Oh yeah, and I see through the night when you got demons trying to break through the walls.
De retour pour la fin de la percée de l'histoire. Ça y est, c'est le moment. Il est 56. Et eh bien, nous allons nous dire au revoir et nous venons de nous écouter One Republic Nobody, tiré de l'animé Kaiju numéro 8. C'est bien cela,
oui.
Salouane ?
Kaiju, Thibaut.
Un animé que tu apprécies particulièrement.
Oui, bah, ça fait partie des très très bonnes sorties à suivre des animés de printemps. C'est un manga que je suis depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. C'est relatif, mais ça fait un moment qu'il est publié et que je lis et l'histoire est bien. Pour vous résumer ça rapidement, comme son nom l'indique, c'est l'histoire de Keiju qui attaque le Japon. Et donc le Japon crée une unité spéciale dans une sorte d'armée spécialement conçue pour détruire la Keiju. Et on a le personnage principal qui essaye. En fait, il a son rêve, c'est d'entrer dans cette unité. Sauf qu'il va le laisser tomber un peu. Et il va se réveiller à l'âge de 32 ans. Et la limite pour rentrer, c'est 33 ans.
Ouais.
Donc, bah, il va tout faire pour rentrer. Et bon, bah, comme par hasard, on reste dans un shonen, dans un manga, dans un animé. Il va se passer quelque chose qui fait qu'il va développer des nouveaux pouvoirs. Il va pouvoir même se transformer en kaiju. Et en fait, on a des nouveaux kaiju qui commencent à apparaître. Donc, des kaiju beaucoup plus puissants. Et du coup, il y a tout ce combat de bah, moi, je suis un humain. Je me bats pour les humains contre les kaiju, mais je suis aussi kaiju, donc est-ce que je le montre? Comment ça se passe? Est-ce que... Du coup, il y a tous ces choix-là, et puis non, l'animé est très très beau aussi, très très bien, les personnages sont cool, sont attachants, ils sont bien écrits, ils sont stylés.
Cool.
Donc regardez, je crois qu'il y a 8 ou 10 épisodes de sortie déjà, donc si vous ne savez pas quoi faire ce soir, bah, regardez Kaiju numéro 8.
Eh bien, merci beaucoup Salwan. Eh bien, c'est le moment de se quitter, ça y est. La percée de l'histoire, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, la semaine prochaine plutôt. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission.
Ouais.
Pas émission parce que vous le savez sans doute, les 24 heures vont commencer. Et donc d'abord, le pesage vendredi et samedi. La journée test dimanche. Donc je crois que ça va être un peu le boxon, déjà que ça l'est un petit peu,
ouais.
Mais ça va être le boxon pour aller en ville, donc on ne va pas s'infliger cette peine, et on va décider de reporter ça après les 24 heures. En attendant, on se retrouve plus tard, donc nous vous laissons avec la programmation de Radio Alpa. Eh bien écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, et eh bien écoutez, portez-vous bien. J'ai envie de dire merci Salwan,
merci
d'être venu.
Merci à toi, hein. D'animer, sans toi je ne serais rien, sachant que je ne peux pas animer une émission tout seul.
Ben moi je ne pourrais pas animer non plus tout seul, ou alors ça serait un peu plus chiant, remarquez. Mais bon, voilà, ça y est, c'est fini, portez-vous bien, et au revoir.
Et à bientôt.
À bientôt.
C'est une révolte. Non, c'est rien. C'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Libération.